Donc je vais vous présenter ce qui s'est passé dans un REP. Donc on a suivi un REP plus qu'on a suivi l'année dernière autour de la formation, puisque si je vous présente le réseau, ce réseau, c'est un réseau dispersé, un REP plus dispersé. Pourquoi on dit dispersé ? Parce qu'à la fois, donc ce collège, il est en centre-ville, mais tout son territoire, finalement, couvre aussi une partie de la ville qui est assez éloignée, et notamment des écoles qui sont de l'autre côté de l'autoroute, c'est un petit peu la même chose qu'à Marseille, et qui sont vraiment très éloignées du collège. Leur problème aux pilotes et donc à ce collectif qui est autour de la table ce jour-là, c'est de faire réseau. Comment on fait réseau ? Et dans les objets de travail qui sont donnés ce jour-là, faire réseau, c'est notamment, ça passe notamment par la mise en place de formations. La réunion en question à laquelle on a assisté, ils ont passé énormément de temps à discuter de la formation. Discuter de la formation, ça a été pour eux déjà essayer de comprendre l'agencement, en fait, des métiers de la formation. Alors, je vous remets une diapo qu'on avait fait à ce moment-là pour essayer de comprendre, entre le premier degré et le second degré, qui faisait quoi et qui pouvait faire quoi. Donc, bon, dans la représentation, hein, tout ce qui est formation, c'est ce qui est en rouge, avec à la fois, évidemment, le conseiller pédagogique, mais les formateurs du CAREP, mais si on fait l'interdegré, il y a la DAFOR ou la DIFOP, les IAIPR disciplinaires qui sont aussi chacun dans leur domaine. Donc, si on fait une formation sur les mathématiques en interdegré, est-ce que, oui ou non, on a la présence de l'IAIPR, qui est quand même le référent du second degré pour ces questions. Et donc, les formateurs d'éducation prioritaire, donc qui sont nouveaux dans le système et qui sont bien là. Et donc déjà, pour eux, essayer de comprendre, bon, je veux mettre en place une formation interdegré, mais quel métier, à qui je peux faire appel, qui est concerné par la formation. C'est-à-dire qu'à un moment, le premier degré, il faisait une demande particulière et ça passait par le DAZEN, mais pour le second degré, il fallait que ça passe par le rectorat. Et donc déjà, à un moment donné, où ça se rencontre, c'était loin d'être clair pour les acteurs autour de la table. Autour de la table, donc il y avait ces acteurs. L'IAIPR référent, le chef d'établissement, l'IEN, le coordo, deux directeurs d'école, ce qui est assez rare, le CPC et l'IAIPR académique qui était là un peu de façon exceptionnelle ce jour-là dans la formation, dans la réunion qu'ils appellent comité de pilotage. Et tout de suite, on dit, mais il parle de formation, mais il en manque un, c'est le formateur éducation prioritaire qui ne fait pas partie de cette réunion ce jour-là, alors que c'est quand même un des sujets de la réunion. Quand on a travaillé avec eux, c'est un petit peu ça qu'on a mis, enfin, qui s'est dessiné le schéma derrière moi, c'est-à-dire finalement qui fait quoi dans la formation chez eux. En fait, il y avait ce comité de pilotage qu'ils appellent comité de pilotage, hein, la réunion, où finalement c'était l'endroit où on définissait les besoins et les contenus. Et après, donc le conseil école-collège, qui dans leur définition finalement, leur idée c'était de dire, on va trouver des thématiques, et puis finalement le conseil école-collège, lui, il va en choisir une. Il va choisir une priorité, il y avait cette idée qu'il y aurait quelque chose d'un peu participatif, même si les besoins ont été relevés et sont inscrits dans le contrat de réseau, le conseil école-collège, pour l'année en cours, va choisir la thématique qui sera travaillée cette année. En discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux problèmes. Il y avait la question du premier degré et il y avait la question de la formation interdegré. Donc, on est en REP+, il y a des formations premier degré, éducation prioritaire. Et alors, on se rend compte que finalement, ils ont complètement pensé le travail de manière découpée. C'est-à-dire que pour cette formation premier degré, qui relève les besoins, c'est la coordo. Qui met les gens dans les cases avec les journées, c'est la coordo. Qui conçoit la formation une fois que la thématique elle est posée, c'est le formateur éducation prioritaire. Et le conseiller pédagogique, lui, il n'existe pas. Sauf que dans les faits, en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'ils avaient presque créé un collectif sous le manteau, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, un collectif qui finalement était le coordonnateur, enfin la coordonnateur, enfin on s'en fiche, le coordonnateur, le formation et éducation prioritaire et le conseiller pédagogique. Parce que finalement, pour faire du bon travail, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de cet espace-là. Donc le conseiller pédagogique, un petit peu sur le mode « je ne participe pas à l'éducation prioritaire, aux formations de l'éducation prioritaire de façon assumée, parce que par ailleurs, il y a un mouvement des conseillers pédagogiques dans mon département et que je ne veux pas apparaître comme un jaune, si on veut. » N'empêche qu'il se rend bien compte que lui, de toute façon, dans son métier et pour comprendre un peu ce qui se passe sur le réseau et dans les écoles de son réseau, il a besoin de faire partie de ce collectif. Et donc la conception de la formation, finalement, elle est faite dans ce collectif à trois, encore une fois, qui n'a pas d'espace bien défini, mais qui s'est inventé. Et qui, alors, le découpage reste que le conseiller pédagogique n'anime pas, ni la cordeau n'anime pas les formations. En tout cas, c'était comme ça l'année dernière. Mais en tout cas, la conception se fait à trois. Et en fait, je pense, quand on a travaillé avec eux, ça a aussi été une manière de l'assumer aussi face aux pilotes, c'est-à-dire que de montrer que ce collectif il existe et que finalement le conseiller pédagogique a bien à faire avec la formation éducation prioritaire. Deuxième élément de l'histoire, c'est la formation interdegré. Formation interdegré, donc là, relevé du besoin, on sait ce dont on a besoin, c'est une formation sur la laïcité. Formation sur la laïcité, et donc, là, c'est interdegré, donc ça passe par l'autre rouage, c'est-à-dire que là, on va faire appel, je retourne en arrière, au formateur académique. Parce qu'en plus, c'est de l'interdegré, donc là, ça passe par... Et donc, ce sera une file. Une formation d'initiative locale. Et donc là, c'est un autre chemin. Et là, on les a suivis toute l'année, et donc c'était prévu. Et on y retourne au mois de juin, et ils nous disent « Ah, mais c'est la catastrophe, quoi. Tout le monde est sorti, ça s'est hyper mal passé, les formateurs ont été malmenés, les collègues sont partis en colère. » Et on a vraiment travaillé avec eux pour essayer de comprendre justement un petit peu mais pourquoi le pourquoi de cet échec, on va le dire bon, peut-être un petit peu fort. Mais et en fait, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a vraiment essayé finalement de comprendre un petit peu quelles étaient leurs préoccupations, et notamment sur cette manière qu'ils avaient eu de penser les choses de manière très saucissonnée, c'est-à-dire dans le qui fait quoi. Alors, quel type de formation, quel temps et quel remplacement? On voit bien que le côté organisation est extrêmement compliqué. Et donc, entre formation REP+, interdegré, formation premier degré, temps de formation. Puis après, quel contenu, quelle cohérence entre les différentes formations? Qu'est-ce qu'il relève d'une formation interdegré, de formation premier et second degré, qui définit les contenus des formations, les articulations? Alors en fait, quand on a retravaillé avec eux, les personnes qui étaient autour de la table, on s'est même rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas discuté de ce qu'ils mettaient derrière la question de la laïcité. Pour la principale, c'était en gros, moi j'ai une charte de la laïcité à mettre en musique dans mon établissement. C'est ça que je voudrais avoir comme réponse. Pour le premier degré, on s'est rendu compte que eux, c'était vraiment des questions en fait, des parents. C'était la cour de récréation. C'était comment, à un moment donné, je gère la question des parents et des différents entre les enfants pendant la cour de récréation. Pour le prof de SVT, c'était autre chose. C'était comment je fais cours, moi, dans mon cours de SVT, pour pouvoir faire quand même mon cours sur la sexualité, etc. Et donc, finalement... En travaillant avec eux sur qu'est-ce qu'ils attendaient de cette formation, déjà rien qu'entre eux, dans ce collectif de comité de pilotage, ils se sont rendus compte qu'ils ne mettaient pas du tout, ils n'avaient pas du tout eux-mêmes les mêmes attentes, et ils n'avaient pas du tout en effet les mêmes attentes sur cette formation. Et au bout du bout, eux-mêmes se sont rendus compte qu'il n'y avait pas moyen que ça se passe bien en fait, qu'ils avaient demandé presque une tâche impossible aux formateurs de la DAFOR, qui eux connaissaient pas forcément d'ailleurs très bien le milieu où ils arrivaient, où ils sont arrivés avec un kit un petit peu et que finalement ils les ont envoyés au casse-pipe. Donc vraiment avec eux on a bien redéfini, et sur cette question du qui fait quoi, je voudrais juste insister sur finalement qui fait la remontée des besoins, qui définit les contenus, qui organise la formation, qui conçoit la formation, quel espace de travail pour les formateurs. Ce qui, ne pas le penser comme une personne, et bien comme des collectifs, ou des, avec finalement, pas forcément toujours le comité de pilotage, mais que finalement, ce qui, alors qu'il l'avait pensé un petit peu par métier, comment à un moment, la qualité, elle passait par justement la définition de ces collectifs.
Ouais. Un an après.
Donc les acteurs de ce réseau sont revenus un an après, en identifiant clairement à quel point il était important de s'expliquer, pour reprendre les termes, parce que c'était vraiment ça, expliquer et s'expliquer, expliquer quelles étaient nos représentations, nos attentes, nos besoins, déplier les implicites de chacun. Et ça, ça a été la première chose qu'ils ont pu exprimer en introduction. Et puis ensuite, on a repris ce schéma avec eux, qui a été modifié, comme vous voyez. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est comme tout chronophage et que le temps est une denrée rare dans tous les réseaux, mais de prendre le temps d'identifier où sont nos instances, quels sont les acteurs à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y fait exactement, là, ça leur a permis de dire, alors, on fait un comité de pilotage qui est volontairement restreint. Volontairement restreint pour nous permettre de mieux travailler, plus efficacement. Et en même temps, la discussion a permis aussi de dire, on est plus efficace, mais finalement, sommes-nous réellement plus efficients? Et est-ce qu'on a un réel rayonnement à avoir ce comité de pilotage volontairement restreint? À savoir, par exemple, la Coordo nous dit il est volontairement restreint, mais moi, je passe mon temps à redire, à redonner à chaque acteur, à chaque autre acteur périphérique, les décisions qui ont été prises dans ce comité de pilotage volontairement restreint. Donc finalement, l'année prochaine, on va modifier un petit peu nos modalités, nos instances, et ce que vous voyez ici en pointillé, formateur éducation prioritaire, principal adjoint, directeur SECPA, directeur d'école, parfois, on pourrait les inviter dans ce comité de pilotage en fonction des besoins, des ordres du jour, des priorités qu'on se donne. Et on pourrait faire des comités de pilotage qui soient un peu différents et planifier presque sur l'année avec des marges de manœuvre. Voilà, à quel moment on fait un comité de pilotage restreint, à quel moment on peut se permettre d'inviter pour gagner en efficacité, en efficience. Ensuite, au-dessus de la bulle conseil école-collège, on a ajouté appartenance au réseau versus mise en place du cycle 3. Pourquoi ? Parce que ce conseil école-collège, il le voudrait comme étant vraiment l'instance qui permet de mettre en place réellement ce cycle 3 de manière efficiente. Cependant, ils nous ont quand même dit que pour le moment, ce conseil école-collège, ça leur a servi davantage, notamment les premiers temps, là, à faire finalement appartenance au réseau. Faire en sorte que tous ces individus puissent se réunir et où on tente de créer une collection, voire un collectif. Et finalement, on ne met pas tout à fait en œuvre le cycle 3, mais peut-être c'est un préalable, d'abord, de constituer une collection d'individus et ensuite un collectif, éventuellement.